voix nue. Toute cette semaine, hommage à Claude Jean-Philippe, récemment disparu. En 2012, il rencontrait Carole Desbarra. Ce soir, les films, la vie.
Bonsoir, Claude Jean-Philippe. Nous avons déjà abordé ensemble votre itinéraire de cinéphile de Casablanca à Paris. Nous avons parlé aussi des questions de fiction et de pourquoi cela vous touchait autant. Et je pense qu'il serait temps maintenant que nous commencions à parler plus directement de ces films qui vous accompagnent et que vous nous aidez à aimer. Ces films dont vous dites qu'ils sont vivants. Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait que ce sont des œuvres vivantes ?
Ah voilà, c'est un de mes dada. À savoir que... D'abord, une anecdote, mais révélatrice. Un jour, au Ciné-Club, il se trouve que j'avais beaucoup aimé les films de Lozé quand j'étais jeune. J'en étais un peu revenu, mais en même temps, un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas passer tel film de Lozé au Ciné-Club ? Je ne me rappelle plus d'ailleurs lequel. Je l'ai passé, j'ai été déçu, en ne comprenant pas comment j'avais pu aimer ça autant, ou avoir dit que j'aimais ça autant, quand j'étais jeune critique à Télérama. Et j'interroge les gens dans la salle, et il y en a un qui est plutôt positif envers le film et qui dit « c'est intéressant ». Et je lui dis « mais c'est ce qu'on peut dire de pire sur un film, c'est intéressant ». Et là, depuis, c'est devenu une certitude. Toute question mise à part du divertissement, de la culture, etc. Je crois qu'une œuvre doit être un événement de notre propre vie. Et l'exemple majeur à cet égard, c'est celui de la partie de campagne. C'est pas de la partie de campagne, de partie de campagne, parce qu'il n'y a pas de là, que j'ai découvert. Quand j'étais adolescent, au cinéma Le Triomphe à Casablanca, et le film était présenté en première partie. Il y avait des premières parties assez longues à l'époque, avec des actualités, des documentaires assez rasoirs, et je m'attendais à un documentaire assez rasoir. Et soudain, les images de parties de campagne. Je ne savais rien de Renoir, je ne savais même rien du cinéma français de cette période. Et j'ai été touché au ventre, enfin, beaucoup plus qu'au cœur, en réalité. J'ai d'abord, la sensualité du film m'a complètement... J'ai complètement découvert la mienne à travers ce que je voyais. Et le film m'a touché comme n'est pas permis qu'on soit touché. Donc ça a été... l'un des premiers événements de ma vie. Et je me rappellerai toujours également des lumières de la ville que j'ai vues au cinéma Luxe, si vous dire les choses avec précision, qui se trouvait en face de chez le dentiste où ma mère m'envoyait le jeudi avec en même temps le prix d'une place de cinéma pour que j'aille chez le dentiste. Et alors là, c'était dans l'après-midi, donc la salle ne devait pas y avoir grand monde. Mais je me rappelle ma marche dans la nuit après avoir vu les lumières de la ville, avec dans l'esprit gravé évidemment les dernières images de Charlot et de l'aveugle qui a retrouvé la vue. Et là encore, ça a été effectivement un événement de ma propre vie, comme les vacances de Monsieur Hulot quand je l'ai découvert dans un autre cinéma de Casablanca au début des années. Enfin, j'ai dû le voir à sa sortie, tout simplement. Voilà. Donc là encore. Ne plus pouvoir penser à autre chose qu'à ce qu'on vient de voir et être rigoureusement transformé, son regard transformé. Je me rappellerai toujours du jour où j'ai vu Trafic du même Tati sur les Champs-Élysées. C'est un film, d'ailleurs un très beau film de Tati.
Magnifique.
Dont on parle peu, on parle beaucoup de Plétagne, mais pas assez de Trafic.
Thank you.
accident de trafic dans la lumière, et je crois que ça devait être l'été, et j'ai vu la vie avec le regard de Tati. Brusquement, je voyais les gens, la vie des Champs-Élysées, avec le regard de Jacques Tati. Donc, il faut que ce soit un événement au-delà de la perfection, parce qu'en même temps, il n'y a pas de chef-d'œuvre, parce qu'en principe, le chef-d'œuvre, c'est la perfection. Or, j'ai, comme tout le monde d'ailleurs, j'ai vu l'Atalante dans une version tronquée pendant des années. Je l'ai vu et revu et revu et revu avec le chaland qui passe à la place de la musique de Jaubert, et ça m'a pas empêché, à l'époque, de, bien que ce soit complètement tronqué, d'y voir l'un des plus beaux poèmes cinématographiques qui ait été réalisé. De la même façon, la règle du jeu. J'ai vu la règle du jeu au moins 7 ou 8 fois avant de le découvrir dans sa version rétablie par Renoir au début des années 60. Donc, il n'y a pas de chef-d'œuvre, il n'y a pas de perfection. Mais il y a ce sentiment, cette émotion, qu'il y a quelque chose d'unique et qui fait que vous êtes transformé à jamais, quoi. Et quand on voit le film, alors quand je dis vivante comme les personnes. Il y a des gens qui vous tombent des mains, qui ont pu vous séduire, qui ont pu vous toucher, mais qui vous tombent des mains un jour, enfin, dont vous avez fait le tour. Or, il y a des films comme ça, il y a des films dont on a fait le tour, et puis des films dont on n'a jamais fait le tour. Ce sont ceux-là vos vrais amis, ce sont ceux-là vos vrais amours. Pour parler... oui, alors non, c'est trop personnel. Mais c'est comme l'amour. C'est vrai que l'amour, contrairement à ce que tout ce qui peut se dire sur le temps qui l'affaiblit, le temps qui... Pas du tout. L'amour d'une œuvre comme l'amour d'une femme, quand c'est un amour vrai, ne s'affaiblit jamais, puisque on peut... je suis sûr qu'à la 16e ou 17e fois que j'ai vu La Règle du Jeu ou que j'ai vu l'Atalante ou que j'ai vu The Big Sky de Hawks, ou que... Voilà, donc, ce sont des émotions qui ne s'épuisent pas, parce que la femme que vous aimez, à ceci de particulier, c'est qu'elle continuera toujours à vous surprendre. Ou l'ami. Voilà, c'est ça qui fait qu'une œuvre est vivante ou pas.
Donc, il y a d'une part le fait qu'on revienne sans arrêt sur un film de cœur, comme un ami de cœur, et qu'ils ne nous déçoivent pas, mais il y a autre chose aussi, il y a qu'ils nous accompagnent et qu'ils peuvent évoluer en même temps que nous. Je veux dire que vous parlez beaucoup de Renoir. Vous avez cité depuis tout à l'heure Tony, La Règle du Jeu, Le Parti de Campagne, peut-être un autre aussi. On a l'impression que ça vous a accompagné le long de votre vie, en tout cas l'œuvre de Renoir.
Je ne suis pas le seul, hein. Tous les gens qui ont été nourris à la couverture jaune, et pas parce qu'ils étaient nourris à la couverture jaune, mais ça a été la découverte d'une génération, bien entendu, puisque ça a été notre génération qui l'a placé là où il est, à jamais. Parce que c'est probablement celui qui savait le mieux ce qu'était la vie d'une œuvre ou la vie tout court, voilà. Et qui savait que les œuvres devaient être vivantes.
Il y a des moments dans lesquels des films peuvent nous aider. Ça vous est arrivé, dans des moments difficiles de la vie, d'avoir un film qui vienne comme un secours?
Je ne sais pas. Là, vous me posez une drôle de question, parce que je ne crois pas que je me la sois jamais posée, parce que... Ou alors je n'ai pas arrêté de me la poser, quoi.
Oui, non, c'est pas une question qu'on se pose. C'est est-ce que ça arrive ou pas, quoi. Des gens qui peuvent se trouver mal dans des situations sociales et se dire que Lubitsch les sortirait d'affaires, par exemple.
En tout cas, si je me reporte toujours à mon enfance, il est bien évident qu'il y a au moins une chose, c'est que, ça, évidemment, ça ne m'arrive plus, mais ça m'est arrivé quand j'avais 6 ans, c'est de prendre conscience que l'école, c'était demain, et que le film allait s'arrêter, qu'il allait falloir retourner à l'école le lendemain, quoi. Donc, qu'il allait falloir retrouver la vie. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que une des faiblesses de ma génération, c'est probablement d'avoir appris la vie au cinéma. Enfin, on a été très différents tous autant qu'on était, heureusement, mais enfin, ce que dit Godard, j'ai appris la vie au cinéma, etc. Bon, c'est... La fiction est un refuge, bien sûr, mais il faut peut-être s'en garder. Je ne sais pas. Enfin, je suis pas la laisser là où elle est. Enfin, lui conserver son privilège d'être de la fiction.
Et pas simplement une parenthèse.
Voilà,
qui
c'est ça.
Permet qu'on ne vive pas. Quoi.
Non, c'est ça.
Et c'est très très frappant quand on rapproche de ce que vous nous avez dit sur la génération des Truffaut, Godard, Rivette, qui passaient leur vie entière au cinéma. Et pour lesquels, en fait, d'une certaine manière, la parenthèse, c'est la vie. Et la vraie vie, c'était dans la salle, dans la nuit bienfaisante dont vous parlez.
Non, bien heureusement, ils ont vécu. En tout cas, Truffaut, c'était évident. On a échappé au piège, je crois, non, sûrement. Mmh. Mais en même temps, pourquoi pas faire ce détour? Pourquoi pas faire ce détour par la, qu'on commence à voir des films et ensuite qu'on vive, ou qu'on vive et qu'ensuite on voit des films? Pourquoi pas? Mais il y a une chose certaine, vous dites les films vous accompagnent. Là, on est en train de parler des films cruciaux, enfin des films, oui, essentiels. Mais il est bien évident que pour ce qui est de la cinéphilie, un de mes reproches, un très grand reproche à l'égard de la cinéphilie, en particulier celle qui a suivi celle des années 60, parce que c'est pas la même. Celle de Tavernier n'est pas celle de Truffaut. Je n'arrive plus. Bon, je vois bien. Je passe ma vie comme je l'ai toujours passé. Ah tiens, à me dire tiens, ce petit film de Joseph Aschlewitz ou ce Association criminelle ou des films comme ça ou ce petit Botticher avant ou des films secondaires de Minelli ou ça existe. Bon, au nom de l'amour du cinéma, je veux bien qu'on le justifie, mais pas au point d'aller chercher du côté de Ricardo Freda ou de... voilà, donc là, je marche plus. Là, je marche plus. Les grands restent les grands, et c'est d'autant plus mystérieux qu'il n'y a strictement aucun critère pour désigner un grand et le différencier d'un moyen. C'est comme ça.
C'est par rapport à vous-même. Oui. Mais simplement, ça veut dire que vous n'aimez pas les nanars ?
Moins qu'avant.
Qu'est-ce que vous aimiez comme nanars avant ?
Bah, les petits westerns, les petits films noirs.
Avec Audie Murphy, par exemple. Ils étaient très mauvais, ceux-là.
Ceux-là étaient très mauvais, oui, mais il y a. J'en vois de temps en temps. Mais j'avoue que c'est un plaisir coupable, désormais. Un plaisir coupable par rapport aux films que j'ai dans ma cinémathèque et que je devrais revoir, parce que ceux-là.
Mais vous portez un jugement moral ?
Non, mais. Pas moral, mais non, c'est sur la cinéphilie, c'est sur les cinéphiles des années 60 que je revois encore à la sortie des films, disant c'est minable ou c'est débile ou c'est génial à propos de je sais pas quoi, de n'importe quel film de Cotta Favi, moi je veux bien, mais j'ai un peu marché dans leur admiration, mais aujourd'hui c'est fini.
Mais par exemple, pour vous, c'est fini. Mais c'est une cinéphilie qui existe aujourd'hui différemment. Vous avez des jeunes gens qui sont absolument incollables sur le film de Sabre des années 70 et pas des années 80, qui connaissent tout sur telle cinématographie du cinéma de science-fiction des années 60 en Italie, mais pas aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui perdure, ce côté très fétichiste, très obsessionnel des cinéphiles.
Oui, mais
vous ne vous reconnaissez pas ?
Pas du tout, non. Pas du tout, non. J'ai rien contre, hein. The Horror Picture Show, ou je ne sais quoi. Mais j'ai rien. Non, mais ça m'amuse quand on me raconte. Je me rappelle que Caroline Champetier me racontait que pourquoi elle avait été le voir. C'était extraordinaire. Enfin, je crois que ça continue, là, le fétichisme de Horror Picture Show.
Mais, tout à fait.
Bon, mais pourquoi pas, hein. Mais ça n'a rien à voir avec la façon dont on peut aimer Rome Ville Ouverte ou Léonce Fioretti.
Bien sûr.
D'ailleurs, lui-même, Rossellini, n'arrivait pas à comprendre comment les jeunes gens des Cahiers pouvaient aimer à ce point des petits films américains. Pour lui, c'était du chinois, enfin vraiment. Ouais.
Et donc, bon. Vous avez l'impression que les goûts évoluent aussi. Vos propres goûts ont évolué,
voilà,
par exemple.
C'est ça.
Vous avez beaucoup ri à François Ier.
Oui.
De Christian Jacques.
Oui.
Peut-être riez-vous encore si vous le revoyez. C'est pas exactement un chef-d'œuvre.
Non, mais je me rappelle d'une conversation avec Eustache. Alors là, c'est un des mystères du cinéma. Il s'est déroulé ici, d'ailleurs, chez moi. Je le voyais assez peu. J'étais pas particulièrement lié à lui. Mais on a eu une conversation sur les auteurs de films, précisément. Et il me disait, Duvivier est d'aucune façon un grand cinéaste, un très grand cinéaste, c'est un très bon cinéaste, mais il disait, Pépé le Moko, c'est magnifique. Et il disait, il y a un film magnifique d'un type qui s'appelle Jean Boyer, qui s'appelle Nous irons à Paris, c'est un film formidable. Et c'est vrai, c'est-à-dire, je l'ai revu, je l'ai enregistré même. Alors que vraiment, ce n'est pas des films que j'enregistre spontanément.
Oui, mais il y a toujours l'idée de la hiérarchie. C'est-à-dire que vous consacrez votre temps, le temps que vous donnez au cinéma ou que le cinéma vous donne, à des choses dont vous estimez qu'elles sont belles,
non,
importantes.
Non, malheureusement, je m'accuse de ne pas le faire assez. D'être paresseux de ce point de vue-là. De ne plus avoir la curiosité que j'avais autrefois. Où il suffisait que quelqu'un me signale quelque chose pour que j'aille le voir. D'ailleurs, heureusement, enfin, autrefois, il n'y a pas si longtemps, c'est un ami qui m'a fait découvrir Almodovar. C'est le même qui m'a fait découvrir Frears. Alors, ce qui est important quand même, ce qui est formidable, c'est que le temps soit le meilleur des critiques cinématographiques. C'est-à-dire que sur le moment, controverse, pour ou contre, faut-il brûler Godard, faut-il lui faire une statue, faut-il ceci, faut-il cela, c'est le temps lui-même qui fait que, individuellement, il y a des gens qui vous tombent des mains, et alors que d'autres, au contraire, ne cessent pas de grandir.
Mais
c'est le temps qui a décidé pour Renoir, c'est le temps qui est en train de décider pour Chaplin. Il y a eu un creux pour Chaplin. Il y a eu une traversée du désert pour Chaplin. Mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde est d'accord.
Oui, aller dire que les derniers films de Chaplin sont des chefs-d'œuvre, il va falloir encore lutter. Il faut que vous continuiez à les montrer au ciné-club.
Ah non, pas du tout.
Ça n'est pas si évident que ça, et c'est vraie lutte à mener.
Non, mais j'ai été le premier à l'écrire
dans
mon bouquin sur Chaplin.
Je sais.
Les derniers films de Chaplin sont ni fait ni à faire.
Allons bon, nous n'allons pas être d'accord. Monsieur Verdoux.
Ah, Monsieur Verdoux, oui, mais pas le film.
Pas la comtesse de Hong Kong.
Pas la comtesse de Hong Kong.
Laissons la comtesse de Hong Kong de côté, mais quand même, les autres.
Le roi de New York, c'est déjà tangent. Hein.
Oh, il y a quand même là une
des belles choses.
Beaux personnages d'enfants.
Non, il y a
de
belles choses, mais
de
Monsieur
tout
Verdoux,
le cinéma.
Mais Monsieur Verdoux, il sublime, carrément.
Oui, tout à fait. Mais si on en revient à vos goûts, ce qui est important là, c'est est-ce qu'il vous est arrivé de brûler ce que vous aimiez?
Oui. Oui, ou en tout cas de ne plus suivre le mouvement.
Non, mais par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez aimé.
Ben, L'Oser, par exemple. L'Oser m'est tombé des mains. Alors que j'avais été très pour. Et j'avais même été le défenseur, et même à l'époque où, au début des années 60, il n'était pas du tout le grand L'Oser, dans Télérama, j'arrêtais pas de faire son éloge.
Et à partir de quand il n'a plus le temps de grâce?
Je sais plus quand ça arrive. C'est comme avec les gens. Il y a des gens qui vous tombent des mains. Il y a des films qui vous tombent des mains. Si on avait dit à un type des années 30 qu'un jour on oublierait Feder au profit complètement de Renoir, il n'aurait pas cru. Le temps fait son travail de telle sorte que, d'ailleurs, en faisant mes 100 films qui sont pas les miens, qui sont ceux de 76. Spécialiste du cinéma, finalement, il y a une espèce d'accord entre gens très 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 différents pour mettre en tête, parmi les premiers, Chantons sous la pluie, une idée qui ne serait venue à personne au moment de la sortie du film.
Mais ce qui est très frappant dans cette liste de 100 films qu'on peut trouver sur Internet et qui est tout à fait passionnante, c'est que les films les plus récents datent de 2002. Cette liste a été faite en 2009. Quel est votre rapport aux films d'aujourd'hui ?
Oh ben, je sais pas, le temps n'a pas fait son travail hein, sur les années 2000. Hein. Peut-être qu'on se trompe complètement, enfin que la critique se trompe complètement, comme elle s'est toujours trompée d'ailleurs, comme elle s'est trompée dans les années 50, n'en parlons pas, comme elle s'est trompée dans les années 60. Peut-être que quelqu'un dans les... Ben, j'aime bien l'idée de mourir et de disparaître, mais la seule chose qui me gêne, c'est de pas savoir ce que penseront les gens de 2133 de Chantant sous la pluie ou du roman d'un tricheur, enfin, ou de To be or not to be, enfin, voilà, j'aimerais savoir, parce que là, le temps aura fait son effet tel que là, les films seront rentrés carrément dans l'histoire avec des choses dont ils n'auront plus du tout les références. D'or, j'ai déjà, quand on voit un film des années 20 et les godes vestimentaires, etc., etc., on est déjà tellement loin. Le temps fait son travail à sa façon.
Oui, mais...
Mais exemple, implacablement.
Pour vous, Claude Jean-Philippe, par exemple, est-ce que dans ces 10 années qui se sont écoulées, vous n'avez pas eu le sentiment qu'un film marquait, qu'il était un chef-d'œuvre pour vous, selon votre propre chef?
Ah, bah, selon moi, non. Moi, par exemple, je donnerais toute l'œuvre de Scorsese ajoutée à toute celle de je ne sais qui, enfin bon, pour Madame Anderson présente de Stephen Frears. Facilement.
D'accord.
Et Madame Anderson présente, je suis sûr que c'est un film tout récent. Hein,
oui. Ou alors,
j'ai du mal à distinguer les films les uns des autres, mais si on. Les Coris Maquis, que ce soit les premiers ou ceux d'avant-hier, je suis prêt à tout donner pour Coris Maquis parce que. Peu de gens ont eu le pouvoir de me faire rire, cette qualité de rire et cette qualité d'émotion, quand même. Un homme sans passé, c'est une merveille. Donc, non, je suis pas passéiste du tout, personnellement. Hein, mais je me trompe certainement, peut-être, sur Scorsese. Peut-être que mes arrière-petits-enfants diront « Quel crétin de pas avoir aimé ça !»
En même temps, vous savez, je crois que le monde se divise entre les gens qui aiment Coppola et les gens qui aiment Scorsese. Vous seriez de quel côté ?
Moi, c'est plutôt frire, ça.
Ah, c'est frire, d'accord, beauté en touche. Sur cette liste, quels sont vos préférés? Il y a donc 100 films.
Ce qui est formidable, c'est la hiérarchie, en l'occurrence, qui s'est dégagée. Au moment de la sortie de La Nuit du Chasseur, personne n'aurait imaginé. Personne n'aurait imaginé. Bon, La Règle du Jeu et La Talente, ça va de soi. Aime le Maudit aussi, mais Chantons sous la pluie. Moi, je trouve formidable, par exemple, que de tout Bergman, soit Fanny Alexandre qui ressorte, parce que là encore, le temps a fait son travail de sorte que, effectivement, c'est le plus beau, enfin, c'est le plus beau film de Bergman. Non, moi, cette liste m'a étonné parce
que,
en fur et à mesure que je cochais le nombre de voix qui se portaient sur tel ou tel film, je me disais bravo, bravo, bravo.
Mais vous aviez mis quoi en premier ?
Moi, j'ai du mal à mettre en premier. Hein. Je me rappelle plus, mais parce que c'est avec mon enthousiasme habituel, j'ai tendance à un jour je vous dirai Monsieur Verdoux, par exemple, ou un autre jour je vous dirai La Règle du Jeu, un autre jour Partie de campagne, un autre jour Léon Suretti, je sais plus, et bien sûr l'ensemble de l'œuvre d'Ozu, donc. Lui était presque infaillible. Hein. À partir d'un certain moment, il y a une unité telle dans son inspiration qui fait que.
Donc cette question d'unité, effectivement, c'est un critère qui vous fait décider d'enregistrer, par exemple.
Ah mais Ozu n'importe lequel, ça c'est sûr. Hitchcock aussi, hein. Mais j'ai pas enregistré Monsieur et Madame Smith, par exemple. Enfin, quand même.
Mais vous ne parliez pas autant d'Ozu au moment où vous avez commencé à écrire sur vos journaux de cinéphiles. C'est quelque chose qui est venu peut-être au fur et à mesure des années.
Non, mais maintenant, j'ai plus rien à perdre, hein, comme disent les footballeurs. Donc, pour ce qui me concerne, si on me dit demain, on va voir le dernier Frears, ou le dernier Woody Allen, ou le dernier Coris Maquis, je cours. Si on me dit autre chose... j'y vais par acquis de conscience ou par restant de conscience professionnelle.
Et un nom que vous ne connaissez pas du tout, que quelqu'un vous proposerait.
Ça, oui. Non, ça,
moi,
oui.
Je vous dis, je connais un jeune élève de la FEMIS qui a fait un film magnifique.
Oui. Ça, oui. Ça m'est arrivé souvent.
Ça, c'est formidable.
Ça m'est arrivé souvent. Si quelqu'un... Il y a d'ailleurs une manière de parler des films. Quand c'est dans la conversation, t'as vu le dernier, etc. Ça compte pas. Ce qui compte, c'est quand soudain quelqu'un est animé, il a quelque chose, une lumière dans le regard, qui indique qu'un événement pour lui s'est produit. Et donc voilà. Donc, si un événement s'est produit pour lui, il peut se produire pour moi.
Retrouvez demain la suite de cette rencontre de Claude Jean-Philippe avec Carole Desbarra, enregistrée en 2012. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Gilles Davidas, Thomas Duterre, coordination Belle Indola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.